spirituel qu'on peut retirer de ce livre. Voilà, alors je vous propose quand même dans un premier temps de faire la lecture de quelques versets du livre. On va le parcourir rapidement. Donc nous lisons au chapitre 1er d'Esther, verset 1er. Et au jour d'Assuérus, cet Assuérus régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie sur 127 provinces. En ces jours-là, il arriva que le roi Assuérus, étant assis sur le trône de son royaume à Suse, la capitale, la troisième année de son règne, fit un festin à tous ses princes et ses serviteurs les puissants de la Perse et de la Médie, et les nobles et les chefs des provinces étant devant lui. Je vais passer au verset 12. « Mais la reine Vasti refusa de venir à la parole du roi transmise par les eunuques, et le roi se mit fort en colère et sa fureur s'embrasa en lui. » Donc Vasti va être répudiée par le roi. Nous lisons au chapitre 2, verset 5. « Il y avait à Suse, la capitale, un homme juif, son nom était Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chimie, fils de Kis, benjaminite. Il avait été transporté de Jérusalem avec les captifs qui avaient été transportés avec Jéconias, roi de Juda, de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, que Nebuchadnezzar, pardon, roi de Babylone, avait transporté. Et il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Et la jeune fille était belle de taille et belle de figure. Et à la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'a pris pour fille. » Et donc Esther va plaire au roi et il va donc l'épouser. Ensuite, nous allons au chapitre 3, verset 1er. Après ces choses, le roi Assuérus agrandit Aman, fils d'Amédata, l'Agagite, et l'éleva et plaça son siège au-dessus de tous les princes qui étaient avec lui. Et tous les serviteurs du roi qui étaient à la porte du roi se courbaient et se prosternaient devant Aman, car le roi l'avait ainsi commandé à son égard. Mais Mardoché ne se courbait pas et ne se prosternait pas. Et c'eût été une chose méprisable à ses yeux que de mettre la main sur Mardoché seul, car on lui avait appris qu'il était du peuple de Mardoché. Quel était le peuple de Mardoché? Et Aman chercha à détruire tous les Juifs qui étaient dans tout le royaume d'Assuérus, le peuple de Mardoché. Alors Esther va intervenir pour sauver son peuple. On peut lire au chapitre 4, verset 15. « Et Esther dit de répondre à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, et ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi et mes jeunes filles, nous jeûnerons de même, et ainsi j'entrerai vers le roi, ce qui n'est pas selon la loi. Si je péris, je périrai. » Et Mardoché s'en alla et fit selon tout ce qu'Esther lui avait commandé. Chapitre 5, verset 2. Et aussitôt que le roi vit la reine Esther se tenant dans la cour, elle trouva faveur à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui était dans sa main. Et Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Et le roi lui dit, « Que veux-tu, reine Esther? Quelle est ta requête? Quand ce serait jusqu'à la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Et donc Esther va demander à ce que le roi revienne pour un deuxième festin avec Aman. Et nous passons directement au chapitre 7, verset 3. Et la reine Esther répondit et dit, « Si j'ai trouvé faveur à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, qu'à ma demande, il m'accorde ma vie et mon peuple à ma requête. » Et le roi donc va accepter de sauver les Juifs, du moins de leur permettre de se défendre. Et il va punir par contre Aman. Verset 10 du même chapitre 7. On pendit Aman au bois qu'il avait dressé pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. Je passe directement au chapitre 9. Verset 20. Et Mardoché écrivit toutes ces choses et envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, à ceux qui étaient près et à ceux qui étaient loin, afin d'établir pour eux qu'ils célébreraient le 14e jour du mois d'Adar et le 15e jour chaque année comme des jours dans lesquels les Juifs avaient eu du repos de leurs ennemis et comme le mois où leur douleur avait été changée en joie et leur deuil en un jour de fête, pour en faire des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions l'un à l'autre et où l'on fait des dons aux pauvres. Donc c'est l'institution de la fête Pourim, comme ça nous est dit au verset 26, c'est pourquoi on appela ces jours Pourim, d'après le nom de Pour. Bon, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc voilà un petit survol de cette histoire. Alors je vous propose dans un premier temps de replacer un petit peu Esther dans son temps, hein, son époque. Voilà, alors c'est une histoire, si on prend un grand panorama de l'histoire d'Israël, en faisant partir de l'Exode jusqu'à la naissance du Seigneur Jésus, voilà, on se trouve au temps de ce qu'on appelle le temps de l'exil, c'est-à-dire où Israël et Juda ont perdu leur indépendance. Donc Esther se situe ici, on est sous la domination perse, qui succède à la domination chaldéenne, c'est-à-dire de Babylone. Si on regarde d'un peu plus près ce temps de l'exil, donc les Assyriens ont vaincu les Israélites. Ensuite, ce sont les Chaldéens, c'est les Babyloniens qui ont vaincu Juda. Donc tout le peuple est déporté et donc les gens de Juda se trouvent à Babylone et dans d'autres villes de la Chaldée. Mais ensuite, les Perses vont renverser les Chaldéens. Donc on est à cette époque-là, au temps d'Esther, sous la domination des Perses. On zoome sur l'Empire perse, donc c'est un petit peu Cyrus qui a été le fondateur de cet empire. Et puis ici, on se trouve au temps d'Esther, quatre générations de rois plus tard, au temps de celui qu'on appelle, que les historiens appellent Xerxès Ier, que la Bible appelle Assuérus. Voilà pour se situer. Donc environ 470 avant Jésus-Christ, ça pourrait être une date pour cette histoire. Alors voyons un petit peu l'environnement, c'est-à-dire l'Empire perse, donc fondé par Cyrus II, on voit c'est un petit peu avant le début du livre d'Esdras, c'est là au livre d'Esdras, donc Cyrus va libérer les Juifs. Donc en 550 avant Jésus-Christ, Cyrus soumet les Mèdes, puis il bat les Babyloniens un peu plus tard, et 2 ans après sa victoire sur les Babyloniens, il va autoriser donc les Juifs à revenir pour certains d'entre eux à Jérusalem. C'est ce qu'on appelle l'Empire perse achéménide, du nom d'Achéménès, qui était le grand-père de Cyrus. Vous voyez, c'était un grand empire, hein. Alors, on a lu qu'il régnait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Effectivement, si on regarde cette carte, on voit que ça va bien de l'Inde à l'Éthiopie et en direction de la Grèce, même si Xerxès en particulier a échoué dans ses batailles contre les Grecs. On est dans la ville de Suse. Alors Suse, c'est une des 3 capitales hein, de l'Empire perse. Il y a Persépolis, il y a Suse, et puis Ecbatane. Selon les saisons, visiblement, les rois résident à des endroits différents, donc c'est la résidence d'hiver. Il y a un immense palais qu'a construit Darius Ier. Il y a aussi le Propylée, qui est une grande porte bon, dont on retrouve des vestiges. Et puis il y a là, dans cette ville, une minorité juive, donc déportée, bien discrète. Bien discrète, j'en veux pour preuve, la première remarque importante qu'on peut faire sur le livre d'Esther, c'est que le nom de Dieu n'y figure pas. Ça, c'est étrange. Ça nous fait penser un peu à notre époque, hein, d'une certaine manière. On dirait que c'est un petit peu gênant de parler de Dieu à cette époque-là. Un petit peu dangereux, peut-être. Et à notre époque, c'est vrai aussi qu'on remarque que dans des phrases, souvent on s'arrange pour ne pas prononcer le nom de Dieu. Par exemple, quand on dit « je vais prier pour vous », on dit plus volontiers « je penserai à vous ». C'est une manière de, hein, de se faire discret dans l'évocation de tous les faits religieux. De la même manière, Esther va dire, elle va dire « prier pour moi », il n'y a même pas « prier », vous voyez. Elle va dire « jeûner pour moi ». Bon, « jeûner pour moi », on ne sait pas si c'est vraiment la prière, mais ça l'était certainement. Mais vous voyez, elle a une manière un petit peu discrète, timorée peut-être, d'évoquer un acte envers Dieu. Bon, ce Xerxès Ier, alors évidemment dans notre Bible il s'appelle Assuérus. Pourquoi? Parce que Assuérus ça veut dire grand roi, c'est de l'hébreu, et Xerxès ça veut aussi dire grand roi, mais c'est du vieux persan. Donc, c'est le fils de Darius Ier. Et donc il règne de la Turquie à l'Inde, on l'a vu sur la carte. Il échoue par contre dans ses batailles contre les Grecs. Alors maintenant, je vous propose un petit survol de l'histoire. Donc on a lu des extraits assez importants, mais on va reprendre un peu chapitre par chapitre pour que vous ayez vraiment une vision complète de l'histoire. Donc le chapitre premier, c'est le festin, le grand festin, où Assuérus invite tous les grands de son royaume. Ce festin va durer 6 mois. Donc imaginez, ça devait être un beau festin. Il y a là tous ces gouverneurs. Mais voilà, il se produit un incident, c'est que Vasthi, sa femme, refuse d'y participer. Et donc, elle va être répudiée. Ça, c'est le chapitre premier. Au chapitre 2, le roi va donc chercher à remplacer Vasthi. Et donc, il va réunir des jeunes filles de son empire, faire une sorte de concours de beauté, si vous voulez. Vous voyez que le concours de beauté qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Lui, le but, c'est d'y choisir une nouvelle reine. Et donc, parmi ces jeunes filles qui lui sont présentées, il voit une jeune fille qui s'appelle Hadassa, donc c'est son nom hébreu, qui veut dire myrte, qui va être ensuite appelée Esther. Alors, le rapprochement entre les deux noms est assez simple, c'est que Esther signifie étoile, et la myrte est une fleur aussi en forme d'étoile. C'est ça qui a fait de passer d'un prénom à l'autre. Mais en même temps, on peut dire qu'elle est devenue une star, hein, d'une certaine manière, puisque elle qui était une pauvre orpheline, on peut dire, du jour au lendemain, elle se retrouve reine. Se retrouve au zénith. Alors on nous dit qu'elle est élevée par son cousin Mardochée, donc qui est un des gardes du palais de Assuérus. Donc elle plaît au roi et elle va devenir reine à la place de Vasthi. Ça, c'est le chapitre 2. On arrive au chapitre 3, là il se produit un deuxième incident. C'est que Assuérus a qu'on pourrait appeler un vizir, une sorte de premier ministre, qui s'appelle Aman, qui est assez bien élevé, qu'il faut saluer, et il faut même s'incliner devant lui lorsqu'il passe, et donc Mardochée va refuser de s'incliner devant lui. Donc Mardochée, le cousin de Esther, qui élève sa petite cousine, va refuser de s'incliner. Alors on le comprend, il est juif, bien sûr, et il respecte les 10 commandements. Donc, il sait qu'il ne faut s'incliner devant personne d'autre que Dieu. Donc voilà, il se fait remarquer donc ainsi par Aman, qui va décider de faire mourir non seulement lui, mais les Juifs. Et donc, on voit ça au chapitre 3. On va tirer au sort pour fixer une date à laquelle tous les citoyens de l'Empire ont le droit de tuer les Juifs qui habitent à côté d'eux. On va jeter le pour. S'appelle le pour. Donc on tire au sort et on va fixer au 13 du mois d'Adar, c'est-à-dire 9 mois plus tard. Voilà, en disant ce jour-là, on a le droit de tuer tous les Juifs impunément qui se trouvent à proximité. Alors, petit détail important, visiblement, Assuérus ne sait pas qu'Esther est juive. Elle n'a pas fait connaître son origine. D'où, voilà, la situation un petit peu tendue. Donc, au chapitre 4, Esther va être informée par Mardochée de ce projet d'extermination, on peut dire, des Juifs. Et il lui demande d'intervenir. Il dit, mais voilà, peut-être que Dieu a permis que tu sois là pour une pareille occasion. Et alors elle dit, le problème, c'est qu'il y a bien longtemps que je n'ai pas été invitée à m'approcher du roi. On ne peut pas le faire de sa propre initiative. Si on s'approche de lui, on est mis à mort. Sauf si, bon, il est dans un bon jour, il peut tendre le sceptre d'or, à ce moment-là, on est gracié et on peut communiquer avec l'empereur. Mais même la reine, éventuellement, pourrait être en danger par rapport au fait de s'approcher comme ça. Et donc elle va décider, donc à la fin du chapitre 4, on l'a vu, de prendre le risque de s'approcher du roi au péril de sa vie. Donc c'est ce qui se produit au chapitre 5. Donc elle rentre dans le palais, et puis Assuérus lui tend le sceptre d'or, donc elle est graciée. Elle va inviter donc Assuérus et son vizir Aman à un premier repas. Bon, il ne se passe pas grand-chose dans ce premier repas, et elle va les inviter à revenir le lendemain. Et là, les événements se précipitent, parce que le soir même, Aman, toujours dans sa haine vis-à-vis de Mardochée, décide de construire une potence pour pendre Mardochée. Et voilà que dans la nuit qui va suivre, Assuérus, donc la nuit qui sépare les deux repas finalement, dans la nuit qui suit, Assuérus a une insomnie et il demande de lire les chroniques de son royaume, les événements qui se sont produits. Et là, on trouve un ancien récit qui raconte qu'un certain Mardochée lui a sauvé la vie au moment d'un complot. Et donc, il va dire, mais qu'est-ce qu'on a fait pour récompenser cet homme? Pas grand-chose. Alors, on va dire, eh bien, écoutez, et on va promener cet homme dans la ville, sur un cheval, et pour qu'il soit honoré pour cette bonne action. Et donc, on va charger Aman, imaginez la situation, de promener Mardochée sur son cheval dans la ville pour vraiment le récompenser de cette bonne action, vêtu de beaux vêtements. Bon. Alors, imaginez évidemment la colère de Aman. Ensuite, le soir même, donc c'est le deuxième repas, Esther reçoit Assuérus et Aman, et elle va donc dénoncer ce projet de destruction des Juifs qui a été monté par Aman. Et donc, voilà, il dit c'est Aman qui a fait cela, et donc le roi est très en colère, et sur le champ, on pend Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. À partir de là, reste le problème de cet édit qui a été donné qu'on peut exterminer les Juifs le 13 du mois d'Adar. Donc, étant donné que les édits des rois de Perse ne peuvent pas être abrogés, on va écrire un deuxième édit disant que les Juifs peuvent se défendre. Voilà, ce qui normalement devrait empêcher le problème. Mais malheureusement, les Juifs vont quand même être attaqués, donc ça va être des combats, mais ils peuvent se défendre, ils ont prévu, ils sont armés, et donc ça va être une grande victoire pour les Juifs, qui vont être délivrés donc, de leurs opposants. Bien sûr, Mardochée va être élevé. Et puis, au chapitre 9, on a lu un petit extrait, donc Mardochée et Esther ont décidé d'instituer une nouvelle fête juive pour commémorer cette délivrance qui a eu lieu. Le jour où on avait tiré au sort, donc on avait tiré le pour, et donc on va appeler cette fête la fête des Pourim. Donc on a l'institution de cette fête au chapitre 9. Il faut dire que cette fête des Pourim existe toujours. Hein. Les Juifs, en France en particulier, fêtent la fête des Pourim. On lit ce jour-là la Megillah, c'est-à-dire le rouleau, sous-entendu le rouleau du livre d'Esther. C'est aussi un jour de déguisement, où les petites filles mettent des robes de princesse, bien sûr, pour ressembler à Esther, et où aussi on s'envoie des gâteaux, parce que ça a été dit dans cette fête des Pourim, c'est un jour de joie, et on s'envoie des présents les uns aux autres. Alors on s'envoie des gâteaux, en particulier ces petites confiseries triangulaires que les Juifs ont eu la bonne idée d'appeler des oreilles d'Aman. Voilà. Donc le jour de cette fête, on mange les oreilles d'Aman. Et puis on arrive au chapitre 10 qui est très court, donc où on nous raconte que Mardochée est un proche conseiller d'Assuérus. Il protège la communauté juive dans l'Empire perse. Donc voilà pour un survol de la vie de Esther, du livre d'Esther. Alors, je vais développer un petit point maintenant, c'est l'aspect un peu prophétique du livre. Peut-on voir dans les personnages du livre d'Esther une prophétie concernant par exemple le Seigneur Jésus. Et effectivement, beaucoup de commentateurs ont pensé que oui, en particulier pour ce qui est de Mardochée. Alors Mardochée peut être une image du Seigneur Jésus plutôt comme le roi des rois. Et ça fait allusion, disons, à l'époque des temps de la fin. Vous voyez, c'est un aspect un peu eschatologique, on va dire. Hein. Alors vous voyez, j'ai fait un tableau, c'est peu petit, hein. Je suis désolé, j'espère que vous voyez un petit peu quand même. En rapprochant quelques versets du livre d'Esther de choses que l'on trouve dans le Nouveau Testament, en particulier dans l'Apocalypse. Certains ont vu dans Vasthi, donc l'épouse, la première épouse du roi, une image de l'apostasie. Alors, j'aime pas bien dire l'église apostate, parce que pour moi, il n'y a qu'une église, c'est la vraie église, c'est l'église de Jésus-Christ, celle-là, elle ne sera jamais apostate. De l'apostasie post-chrétienne, Babylone, si vous voulez, ou la grande prostituée. Donc, vous voyez, celle qui est soi-disant l'épouse du roi ne l'est plus du tout, elle se comporte mal envers lui, donc elle est répudiée, un peu comme il est dit de Laodicée, tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Voilà, c'est le rejet de la religion post-chrétienne après l'enlèvement de l'Église qui n'a plus la vie et donc qui est rejetée par le roi des rois qui vient. Et donc, on va remplacer cette Bastille par Esther. On nous dit qu'elle a trouvé grâce aux yeux d'Assuérus et puis qu'on l'a préparée, on lui a fait sa toilette, on l'a purifiée, etc., pour la préparer pour le mariage avec le roi. Et c'est un peu une image d'Israël restaurée, qui a besoin aussi d'être purifiée. Hein, on nous dit dans Romains, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera Jacob de l'impiété. Voilà, il va y avoir un lavage, une purification au sens spirituel ici, d'Israël qui va se tourner à nouveau vers le Messie. Donc Esther représente Israël restauré d'une certaine manière. Bon, mais alors voilà qu'apparaît ensuite un opposant qui est Aman. Il va chercher à détruire tous les Juifs. Vous voyez, ça rappelle la tribulation, la grande tribulation. Et Aman ici est une image de Satan, certainement. On nous dit dans l'Apocalypse que le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le reste de la semence de la femme, contre le reste des Hébreux, des Israélites qui sont en train de se tourner vers le Messie. Ils subissent les attaques de Satan. Vous voyez. Et puis alors apparaît Mardoché, le libérateur, le sauveur, avec Esther, mais bon, là on met l'accent sur Mardoché, et on le voit avec un vêtement royal, donc c'est un peu le retour de Jésus-Christ pour régner. Il y a des cris de joie, un peu comme à la fin du chapitre, le milieu du chapitre 19 de l'Apocalypse. Voilà, Alléluia, le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant est entré dans son règne, réjouissons-nous et tressaillons de joie. On fête l'arrivée, le retour de Jésus-Christ pour régner. Et à ce moment-là, les Juifs qui ont la possibilité de se défendre vont frapper tous leurs ennemis. Hein, ce qu'on nous dit aussi au chapitre 9. Et en particulier, on va faire mourir les 10 fils d'Aman. Alors certains ont vu dans les 10 fils d'Aman une image du royaume de la bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Voilà. Bon, vous voyez, on nous dit que la bête fut prise et que les autres partisans de la bête furent tués. Donc les armées opposées à Israël restauré sont vaincues. Et puis ensuite, c'est le règne de Mardoché, chapitre 10. Mardoché fut le second après le roi Assuérus. Alors ici, Mardoché représente le Seigneur qui règne, et Assuérus représente Dieu le Père. Le royaume du monde et de notre Seigneur et de son Christ est venu, et il règnera au siècle des siècles. Voilà, l'image du millénium instauré par le Seigneur Jésus. Ça, c'est une première lecture. Fréquente hein, dans les écrits de nos frères devanciers, comme on dit, ils ont beaucoup retenu parce qu'il y avait un grand intérêt pour la prophétie, cette version. Et je regrette un peu qu'on ne se soit pas trop arrêté sur Esther. Parce que je crois que Esther est vraiment aussi un type de Christ. D'une autre manière. C'est comme ça dans la Bible, souvent, hein, les images se superposent. Par exemple, dans le récit du sacrifice d'Isaac, au début de l'histoire, c'est Isaac qui est un type de Christ, le père et le fils marchaient ensemble, le père offrant son fils, et puis lorsqu'apparaît le bélier retenu par les cornes, cette fois-ci c'est le bélier qui représente Christ, et Isaac nous représente à nous plutôt, hein, puisque le bélier va mourir à la place de Isaac. Donc là c'est le bélier qui représente Christ. Vous voyez, toutes les images sont imparfaites, elles se succèdent, quelquefois en cascade, et elles se complètent, elles montrent un aspect différent de Christ. Donc, il ne faut pas être étonné que dans le livre d'Esther, on puisse dire que à la fois Mardoché et à la fois Esther sont des types de Christ. Peut-être ce qui gêne, c'est que c'est une femme. Bon, enfin, les types de Christ, les préfigurations du Seigneur Jésus ne sont pas forcément des hommes de 30 ans. Sinon, on serait obligé d'en éliminer beaucoup, en particulier Isaac, voilà, pour faire un sacrifice. Et puis, sans parler des animaux comme l'agneau de la Pâque ou d'autres objets comme la manne ou autre. Donc il ne faut pas se focaliser sur le fait que c'est une femme. Je trouve que cette femme, par certains aspects, ressemble au Seigneur Jésus. Dans son sens du sacrifice pour sauver son peuple, elle dit « J'entrerai chez le roi, malgré la loi, s'il faut périr, je périrai. » Voilà. Ça fait penser au Seigneur Jésus qui est déterminé. Il va vers Jérusalem, il sait ce qu'il risque, mais il y va parce qu'il veut sauver son peuple. Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue, il tourna sa face résolument, pour aller à Jérusalem. Voilà. Esther, dans cette démarche, elle va avoir la faveur du roi. Et de la même manière, le Seigneur Jésus, venu pour nous sauver, il est dans l'approbation de Dieu. On dit d'Esther qu'elle trouvait faveur aux yeux de tous ceux qui la voyaient et que le roi a aimé Esther. Et comme le Seigneur Jésus avait à la fois la faveur de Dieu et des hommes. Il y a encore une ressemblance. Bon, Esther va demander la survie de son peuple, hein, chapitre 7, verset 3. Voilà, voici ma requête, la vie de mon peuple. Le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Esther a obtenu une survie. Le Seigneur Jésus nous donne une vie éternelle. Ensuite, on va prendre Aman au bois qui avait été dressé pour Mardoché. Ça aussi, c'est intéressant. La croix, c'est nous qui méritions d'être jugés sur la croix. Bien sûr, c'est le Seigneur Jésus qui est mort sur la croix, mais c'est Satan qui a été vaincu sur la croix. De la même manière que Aman est celui qui est le vrai perdant cette potence. Eh bien, on lit dans Colossiens 2, il a effacé l'obligation qui était contre nous. Hein, c'était nous qui devions mourir. Donc ici, Mardoché représente les croyants, laquelle consistait en ordonnance. Et ayant dépouillé les principautés, les autorités, il les a produites en public, triomphant d'elles en la croix. Voilà. Donc, les croyants ne sont plus jugés et Satan est vaincu. Voilà les résultats de la croix. Et donc ensuite, on va établir une fête pour se souvenir de cette délivrance. C'est la fête des Pourim. Les Juifs établirent et acceptèrent pour eux et pour leur descendance qu'on se souviendrait de ces jours, qu'on les célébrerait dans toutes les générations et que leur mémoire ne périrait jamais chez leur semence. Vous voyez avec quelle insistance on déclare qu'il faut célébrer ce souvenir dans toutes les générations. Et ça fait vraiment penser à la scène du Seigneur, qui elle aussi est en mémoire de la délivrance que le Seigneur a accomplie pour nous, et qu'il faut célébrer jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà. Dans toutes les générations, jusqu'à ce qu'il vienne. On peut faire aussi un parallèle entre les Pourim et la scène. Voilà donc pour l'aspect prophétique qu'on peut trouver dans ce livre. Terminé pour la présentation plus générale, donc ensuite Christophe va continuer avec un aspect plus pratique. On peut retirer de cette histoire les leçons du livre d'Esther. Mais auparavant, je vous propose de vous lever. On va chanter ce cantique. Seigneur, toi qui pour nous t'offris en sacrifice, emplis-nous de ferveur pour mettre à ton service nos jours, nos biens, nos corps, nos cœurs.
arrangé pour sa présentation. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi cette histoire? Pourquoi Dieu a conservé ce récit dans sa parole? À ma connaissance, je ne vis pas 4 siècles avant Jésus-Christ. Je ne suis pas dans la ville de Suse. Mardochée, je ne lui ai jamais serré la main. Et à ma connaissance, il n'y a pas un édit qui a été décrété pour me mettre à mort. Et voilà 10 chapitres que Dieu laisse pour moi, que je sois un enfant, que j'ai 20 ans, 30, 50 ou 80. Un récit que Dieu laisse pour moi. Qu'est-ce que je vais faire de ce récit? Qu'est-ce qu'à la sortie de ce local, je vais faire de cette histoire d'Esther? C'est la question que j'ai à me poser. C'est surtout la question qu'on a à se poser, nous qui avons parfois la responsabilité de parler de la part de Dieu. Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que Dieu donne à travers moi? Pour que cela puisse servir à la sortie du local. Bien, nous allons nous pencher sur quelques passages. Je vais relire ces versets au chapitre 2. En espérant qu'Esther va nous être un peu plus familière. Et Henri a lu chapitre 5. Verset 2. Et aussitôt que le roi vit la reine Esther se tenant dans la cour, elle trouva faveur à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui était dans sa main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Tout à l'heure, Pierre-Henri a dit qu'elle avait été graciée. Et hier soir, dans ce local, nous nous sommes entretenus aussi de la grâce de Dieu. Et je crois que Dieu, cette semaine, veut nous faire toucher un peu plus ce qu'est sa grâce. Esther a été graciée. Replaçons-nous dans le contexte. Elle veut aller auprès du roi. Pierre-Henri l'a rappelé, il n'était pas question d'aller auprès du roi comme ça. C'était la mort assurée, si on n'était pas prêt. Mais elle va s'avancer vers un roi qui est orgueilleux, qui est assis sur son trône, qui est un grand roi, qui fait un festin de 6 mois, qui sans doute n'est pas des plus doux. On voit de la manière dont il dispose de la vie de ceux qui sont dans son royaume. Elle va vers lui. Elle prend l'initiative d'aller vers lui. Et puis l'édit, en plus, qui était proclamé, ben, il est contre elle. Elle est déjà condamnée à mort. Les favoris du roi, c'est son ennemi, ce qui arrange. Et elle n'a personne qui va plaider sa cause. Personne. Voilà que le roi tend le sceptre. Faveur est faite. Grâce est faite. Cela nous fait penser un peu ce qu'on trouve dans le chapitre 18 de l'évangile de Luc avec ce juge inique. Il va dire, ben, quoi que cette veuve m'ennuie, je lui ferai justice. Le juge unique, inique, a fait combien plus Dieu de faire justice. Le roi orgueilleux a fait grâce. Combien plus Dieu, qui est amour et qui est grâce, peut nous faire grâce. Alors en parallèle, quelques passages, on pense à ce... Ah, je sais pas tout ce qui est. On pense à ce chapitre 4 du livre des Hébreux, où il nous est dit, approchons-nous de quoi? Du trône de la grâce. Esther va vers un trône où règne quelqu'un d'orgueilleux, de suffisant. Nous, on s'approche d'un trône sur lequel est assis un Dieu de grâce et un Dieu d'amour. Prend l'initiative. Et nous avons vu hier que pour nous, Dieu prend l'initiative. Et dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur appelle, venez, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. La loi était contre Esther. Dieu est pour nous. Les promesses de Dieu sont pour nous. Je pense à un verset dans l'évangile de Jean. Et au verset 37, « Et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Une promesse. Une promesse du Seigneur Jésus. Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Un Dieu d'amour sur un trône. Un Dieu qui appelle, qui ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Il va y avoir un accès, Éphésiens 2. Un accès nous est donné. Verset 18, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un seul esprit. Par l'esprit, nous avons accès jusqu'à Dieu, jusqu'à ce Dieu favorable. Et puis, personne, si celui qui était le favori du roi Cyrus était l'ennemi, celui qui est le joyau du cœur de Dieu est pour nous. L'épître de Jean nous dit qu'il est notre avocat qui plaide. Alors, c'est notre part, chers frères et sœurs. Nous avançons vers un trône. Esther s'avançait vers un trône avec des risques, mais grâce lui a été faite. Eh bien, si ce roi méchant a fait grâce à Esther, nous, le grand Dieu des cieux, nous a fait grâce. Comme Esther, nous sommes graciés. Un autre verset dans ce livre d'Esther. Et au verset 7 et au milieu du verset 9, « Voici le bois haut de 50 coudées. » Verset 10, « Et le roi dit qu'on l'y pende. » Et on pendit Aman au bois qu'il avait dressé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. On y a fait allusion, un bois, la croix. Dieu fait grâce, mais pour faire grâce, il faut des instruments. L'instrument de la grâce de Dieu, c'est la croix de Jésus-Christ. Deux conséquences, le salut des Juifs et la colère de Dieu qui est apaisée. Romains 5, la parole nous dit, et au verset 9, « Beaucoup plus tôt donc, ayant été maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. » La colère de Dieu n'est pas pour nous, à cause du bois, à cause de la croix de Jésus-Christ. Et il y a salut par ce bois. Il y a un salut par grâce, mais il y a un instrument pour ce salut par grâce, c'est la croix de Jésus-Christ. Et puis, un autre passage concernant Esther. Et au chapitre 8, verset 3, « Esther parla encore devant le roi et tomba à ses pieds et pleura, et le supplia de mettre à néant le mal de Dieu. » C'est important pour nous de savoir que Jésus-Christ a vaincu l'adversaire à la croix de Golgotha. Père Henri l'a dit, Aman, c'est le grand perdant. Ça s'est retourné contre lui. À la croix, Jésus a vaincu l'adversaire. Ne marchons pas dans nos vies chrétiennes comme si Satan n'avait pas été vaincu. Nous sommes délivrés du pouvoir des ténèbres. Et il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort. C'est un fait. C'est un fait. Satan est vaincu. Oui, mais nous savons tous que ce qu'il a soulevé a encore des conséquences aujourd'hui. Aujourd'hui, dans notre monde, il y a des ravages. Il y a des conséquences à l'entrée du péché dans le monde. Il en était de même pour Esther. Il en était de même. La colère du roi était apaisée, oui, mais il y avait un édit. C'est ça que tout à l'heure, Pierre-Henri nous a parlé du droit de légitime défense. les Juifs étaient toujours menacés. Alors Esther va être une messagère. Et je crois qu'il y a un enseignement pour nous, pratique. Nous sommes graciés par le bois, par la croix de Jésus-Christ. C'est l'instrument. Mais nous sommes encore dans ce contexte où l'ennemi fait des ravages et cherche à gagner, à garder pour lui des âmes. Eh bien, il nous faut être, comme l'a été Esther, des messagers de cette grâce. J'ai été toujours profondément marqué par les dernières paroles d'un pasteur écossais qui, juste avant de rendre son dernier soupir, entouré de toute sa famille, a pu dire « Laissez-moi encore sauver une âme. » Et je crois que nous avons besoin, les uns et les autres, d'avoir cette passion pour les âmes, d'avoir des cœurs étreints. Et nous l'avons lu hier, mais on pourrait le relire en 2 Corinthiens 5. Et au verset 14, 2 Corinthiens 5, verset 14, « Car l'amour du Christ nous étreint, en ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. » Nous mettre en mouvement, chers frères et sœurs, si c'est l'amour du Christ qui nous étreint. Vous voyez qu'on peut parler de passion sans amour? Passion pour les âmes perdues. Comme le Seigneur Jésus l'a eu. Bien sûr, on est dans un domaine où la raison a ses limites et où nos intelligences coupent court. Bien sûr, c'est celle du cœur. Mais cet amour de Dieu doit nous étreindre. On n'est pas du temps de Mardoché, on n'est pas à Suse, oui, d'accord. Mais aujourd'hui, Satan maintient encore captives des âmes. Et si l'Église n'a pas cette passion pour les âmes, si l'Église n'est pas étreinte par l'amour du Christ, qui va l'être? Qui va l'être? Montre que c'est elle qui est l'objet de cette grâce, qui va être messagère de cette grâce. Point. Quand on lit ce passage, eh bien, on ne se tourne pas vers celui qui est à côté de nous. C'est de nous dont il est question. C'est aussi la mission que le Seigneur attend de nous, qu'il a confiée à nous individuellement, mais qu'il confie aussi à son Église. Encore concernant Esther, au chapitre 8, toujours et au verset 16, « Pour les Juifs, il y avait lumière et joie, et allégresse et honneur. » Et dans chaque province et dans chaque ville, partout où il parvenait la parole du roi et son édit, il y eut de la joie et de l'allégresse pour les Juifs, un festin et un jour de fête. Et beaucoup de gens parmi les peuples du pays se firent Juifs, car la frayeur des Juifs tomba sur eux. Chapitre 9, verset 16. Et le reste des Juifs qui étaient dans les provinces du roi s'assemblèrent et se mirent en défense pour leur vie, et eurent du repos de leurs ennemis. Le message de la grâce avait été envoyé aux 127 provinces. Et quand le message de la grâce est envoyé, il y a des conséquences. La grâce de Dieu n'est jamais sans effet. Jamais. Alors pour ceux qui la reçoivent, lumière, joie, allégresse, honneur, repos. C'est quelque chose qui est cher au cœur de Dieu que de faire entrer les siens dans son repos. Pas rien être reposé. On lit facilement ces versets des psaumes, repose-toi mon âme, oui. Au-dedans de nous, on est plein de tensions. Ça ne colle pas. Et on dit que le chrétien devrait être joyeux, on n'est pas les plus réjouis non plus. Mais c'est vraiment les conséquences de la grâce, une joie profonde que les circonstances autour ne pouvaient ôter, le repos assuré à ceux qui recevaient la grâce. Et alors, pour les autres, de la crainte. De la crainte. Beaucoup se firent juifs parce qu'ils avaient craint, parce qu'ils avaient eu de la frayeur. Mais ils ont accédé à cette grâce qui leur était aussi offerte. Ils étaient dans le royaume et la grâce était pour les 127 provinces, pour tout le royaume. Et ce message de la grâce, nous avons à le proclamer sur la terre entière. Elle est Lor Esther et graciée par la mort du Seigneur Jésus à la croix de Golgotha. Elle devient ainsi messagère de cette grâce. Il y a des effets de cette grâce. Le même moyen qui a sauvé Esther, c'est le même pardon, Jésus-Christ. Nous entrons dans la joie du salut, dans la paix avec Dieu. Sa colère n'est plus sur nous. Et nous avons la possibilité de transmettre cette joie et ce message qui désormais sont les nôtres. Oui, mais on ne peut pas parler d'Esther sans Mardochée. On n'est pas seul dans cette histoire. On ne va pas sortir du local en disant « Bon, ben voilà, je suis gracié par Jésus. » Et compris qu'il faut que je témoigne de cette grâce. C'est partiellement vrai. On ne fait pas les choses seul. Parce que Mardochée est omniprésent dans ce livre d'Esther. Il est cité la première fois, Pierre-Henri l'a lu, deux versets plus loin d'Esther, qui sont ensemble. Et puis la fin du chapitre 9 nous parle d'Esther, deux versets plus loin des questions de Mardochée. Alors il nous faut effectivement, Pierre-Henri y est venu un peu, je vais essayer d'apporter quelque chose d'autre, mais nous parler de celui qui nous parle de Jésus-Christ et qui fait route avec nous. Il n'a jamais été seul. Il était avec Mardochée. Alors quelques points communs avec le Seigneur au chapitre 2, on pourrait lire. Verset 19, et lorsque les vierges furent rassemblées pour la seconde fois, Mardochée était assis à la porte du roi. On le trouve à la porte du roi. Au chapitre 6, on le trouve à la porte du roi. Il était là à la porte. D'un peuple discret, nous avons dit, mais formé condamné à mort, il était là. Verset 3. Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, et de Jos, et de Jude, et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici, auprès de nous? Ah, le fils du charpentier. Est-ce qu'il pouvait venir quelque chose de bon de Nazareth? Est-ce que il pouvait y avoir des prophètes suscités de la Galilée? Est-ce que l'origine du Seigneur pouvait laisser penser qu'il allait être l'objet du salut? Qu'un jour il serait honoré, grandement honoré. Jésus a été celui qui a été humilié, abaissé, méprisé des hommes. Attention, Mardochée. On est révolté quand il ne nous rend pas les honneurs qu'il doit rendre, comme Aman. On ne faisait pas attention. Mardochée aussi était destiné à la potence. Le bois qui avait été installé, c'est pour lui. Mardochée qui devait être vendu. Philippiens. Verset 5, il y ait donc en vous cette pensée qui était aussi dans le Christ Jésus, lequel, étant enfant de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme. Il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. On a parlé tout à l'heure d'Isaac, qui avait été sauvé in extremis. la potence qui avait été montée pour Mardoché n'y verra pas pendre son corps. Jésus, pour le Seigneur Jésus, il n'y a pas eu de substitut. Il a été frappé. Frappé à notre place. Il était humilié, méprisé, certes, pendant sa vie, mais on ne le supportait pas vivant. Alors il a été pendu au bois. Et un peu plus loin, dans le livre d'Esther, chapitre 8, donc à la fin du verset 10, et la colère du roi s'apaisa. Ce jour-là, chapitre 8, le roi Cyrus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'oppresseur des Juifs, et Mardoché entra devant le roi, car Esther avait déclaré ce qu'il lui était. Et le roi ôta son anneau, qu'il avait retiré à Aman, et le donna à Mardoché. Et Esther établit Mardoché sur la maison d'Aman. Voilà. Mardoché est reconnu. Mardoché est élevé. Oui, mais après que la colère du roi soit apaisée. Pas avant. Ça va de devant la gloire. Jésus est mort sur la croix de Golgotha. Et après, seulement avoir apaisé la colère de Dieu, avoir satisfait sa justice, il peut monter auprès du Père, entrer en sa présence pour s'asseoir à sa droite. Mardoché en était de même. Il a fallu que la colère du roi s'apaise pour qu'il soit reçu en sa présence et qu'il ait ainsi des honneurs. Ce qu'il y a de beau, c'est qu'Esther est là. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Fin du verset 1er, car Esther avait déclaré ce qui lui était. Ce qui lui était. Voilà. Voilà encore un autre effet de la grâce. Des effets sur nous, la joie, la lumière, le repos, mais aussi de l'abondance du cœur, la bouche, pas. Anne, qui attendait la consolation, parler de lui, parler de Jésus. Eh bien, nous avons aussi à témoigner. Être messager de la grâce de Dieu, certes, mais parler de lui. Ton bien-aimé, est-il de plus? Bien-aimé et blanc et vermeil. Un porte-bannière entre dignes. Bannière sur moi, c'est l'amour. Tu es plus beau que les fils des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. Mon cœur bouillonne d'une bonne parole. Je dis ce que j'ai composé au sujet du roi. Et dit ce qui lui était. Ce Mardoché était pour elle. Ne perdons pas de vue cela. Père Henri, tout à l'heure, tu as dit que nous étions peut-être dans un monde où on ne voulait pas parler de Dieu, certes. Il est plus nécessaire de faire la preuve de cela. Père avait dit que si les bouches se taisaient, les pierres crieraient. Or aujourd'hui, si nous, nous nous taisons, Dieu servira des pierres pour dire qui est son bien-aimé et ce qu'il est pour lui. Alors que nous soyons de ceux, gardons la spontanéité, la fraîcheur des enfants. C'est important. Bien sûr, on est dans un monde qui ne veut pas entendre parler de Jésus-Christ. Et c'est bien à nous d'en parler. Là aussi, le cœur a toute sa place. C'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Pas de l'abondance de la tête que la bouche va parler. C'est parce que le cœur est plein, parce que le cœur est épris du Seigneur Jésus, qu'il sera aisé de dire Jésus-Christ est tout pour moi. La personne dans l'air. C'est pratique, ça. C'est haut, quelques mots, les uns, la suite des autres. Elle est à la porte. Celui qu'on avait voulu mettre à mort, elle avait dit. Ce qui avait ses années d'orphelinat. Bien sûr, il y avait eu cette main tendue. Peut-être des bras, des mains sur l'épaule. En tout cas, une présence affective pour elle. Elle n'avait pas oublié. Elle n'avait pas oublié. Et quand l'heure des difficultés a sonné, elle pouvait dire ce qu'il était pour son cœur. Et c'est aussi notre part, chers frères et sœurs. C'est bien à nous de dire à ceux qui nous entourent ce qu'il y a dans nos cœurs pour Jésus-Christ. Jésus de Nazareth, oui, je connais. Il n'y a rien du tout, mais pour moi, il est mon sauveur. Cela générera des soulèvements, des moqueries, des railleries. Mais Mardochée reste la prédestère jusqu'à la fin de l'histoire. Et Jésus-Christ restera là, pris de ce verset, quiconque me confessera devant les hommes. Il sera lorsque nous sortons notre drapeau et que nous pouvons dire Jésus-Christ m'a sauvé, il est mon sauveur et je l'aime. Dans le ciel, il y a joie, il y a confession de notre nom, puisque nous appartenons au grand Dieu des cieux. Et puis, ce verset, dans le chapitre 8, toujours, et au verset 15, et je ne m'allongerai pas parce que Pierre-Henri y a fait allusion. Et Mardochée sortit de devant le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or, et un manteau de byssus et de pourpre. Et la ville de Suse poussait des cris de joie et se réjouissait. Le roi des rois, qui est glorifié, qui est honoré. Celui qui était méprisé, humilié, qui était mis à mort sur la croix de Golgotha, qui s'est assis à la droite de Dieu et dont on salue le nom encore aujourd'hui, il sera haut exalté. Tout genou se ploiera devant Jésus-Christ, Seigneur de la terre et des cieux. Glorieusement. C'est le roi des rois. Et il a désormais la pleine possession de tous les pouvoirs. Quoi? Celui qui marche à côté de nous chaque jour, c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Et avec Esther jusqu'au bout. Le Seigneur Jésus va avec nous jusqu'au bout. Il le promet à la fin de l'évangile de Matthieu. Quelles que soient nos circonstances, difficiles, pénibles, plus ou moins heureuses ou malheureuses, il est là présent. Il est à la droite de Dieu. Il est déjà honoré. Mais il sera tout à l'heure celui qui va rentrer dans son plein pouvoir. C'est déjà quelque chose qui nous est bien précieux. Il y a aussi quelque chose que je voudrais rebondir sans trop prolonger, auquel Pierre-Henri a fait allusion, le fait que dans ces 10 chapitres, il n'est pas fait allusion à Dieu. Quoi? 10 chapitres de la parole de Dieu où il n'est pas parlé de Dieu? Ben oui. Il y a juste quelques versets quand même. Je pense à Romains 8. Romains 8, verset 28. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Romains 9, la page d'après, verset 18, ainsi donc il fait miséricorde à qui il veut. Verset 21, le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour faire de la même masse un vase à honneur et un autre à déshonneur? Lamentation de Jérémie, chapitre 3, page 569, verset 37. Qui est-ce qui dit une chose et elle arrive quand le Seigneur ne l'a point commandée? Psaume 135, page 449, verset 6. Tout ce qu'il lui a plu de faire, l'Éternel l'a fait. Dans les cieux et sur la terre et dans les mers et dans tous les abîmes. La présence du divin Mardochée chaque jour près de nous, pour nous, pour nous. Et aussi, la souveraineté de Dieu. Pas mentionné dans ce récit, mais il est là. Dans le refus de Vasti, il est là. Dans le hasard du sort, il est là. Dans la beauté d'Esther, Il est là. Si elle avait été un peu moins belle, si elle était arrivée deuxième au concours beauté. Bon. Dans une nuit d'insomnie, il est là. Dans le choix de la lecture, il est là. Dans le livre des chroniques, il y a beaucoup de choses à lire. Il s'en touche. Dieu est souverain. Dieu pose le cerf pour notre bien. Pour notre bien. Alors, oui, Esther nous parle. Esther nous parle. Parce que nous sommes des graciés. Parce que par la croix de Jésus-Christ, nous sommes en paix avec Dieu. Il n'est plus en colère contre nous. Nous pouvons témoigner de ce qu'il est pour nous. Nous pouvons être les messagers de sa grâce dans le monde. Sa grâce peut avoir des effets divins en nous. Cette joie, cette lumière, repos, cet amour qui place dans nos cœurs et qui s'échappe de nos cœurs pour les autres et pour les perdus. Et nous avons Jésus-Christ à nos côtés. Celui qui a été méprisé, humilié, qu'on a fouetté, sur lequel on a craché, qu'on a cloué sur le bois maudit, qui a été ressuscité ayant satisfait la justice divine, qui a fait de nous des enfants, des fils et des filles. Il est là avec nous, passant, assis à côté de Dieu et qui plaide pour nous. Et puis la souveraineté de notre Dieu et Père. Et là aussi, tout est dans sa main. Les races, l'action humaine dans nos vies. Là, pour le servir. Là, pour servir Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a comme but? Notre bien, notre bénédiction. De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Chers frères et sœurs, je m'arrête là. N'oublions pas que Dieu est pour nous, que nous ne serons jamais séparés de ses affections et de son amour. Nous serons toujours des fils et des filles à accueillir, qu'il voudra accompagner, qu'il voudra remodeler, restaurer, pour rendre conforme à son image. Parce qu'Esther ressemble, Pierre Henri l'a dit, à Jésus-Christ. C'est aussi une être rendue conforme à l'image de son fils. N'oublions pas que nous ne serons jamais séparés de cet amour. Et qu'au-dessus de tout, au-dessus surtout de nos visions humaines, de ce que nous vivons dans notre quotidien, il y a la souveraineté de Dieu et il y a sa grâce. Tout est en leur éclate en reconnaissance. Nous avons un Dieu merveilleux et sa grâce pour chacun de nous est un vrai trésor. À la sortie de ce local, sans doute quelques-uns auront cette question que j'appelle la question quiz. Alors, c'est bien. Chacun puisse répondre. Si c'était bien, je ne sais pas. Mais souhaiterais maintenant qu'avec force et conviction, mais qu'avec des cœurs qui débordent d'amour, nous chantions tous ensemble.
Sous-titrage Société Radio-Canada. 66. Une comparable tendre et fidèle à vie. 66.